Un sujet important dans la théologie chrétienne, c'est chrétien et c'est la question qu'on va se poser ce matin. Est-ce que nous sommes des saints ou est-ce que nous sommes pécheurs? Comment nous définir? Comment la Bible nous définit? Comment Dieu nous définit? Et j'ai préparé du coup, on aura 5 questions ce matin. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Donc 5 questions et je vous propose, voilà, pour commencer... Je vous propose du coup pour commencer de faire la chose en deux parties. Vous allez commencer à travailler sur 3 questions. Après ces 3 questions, on va faire un premier point ensemble. Et puis vous aurez 2 questions ensuite pour pouvoir travailler. Donc voilà, je vous mets les 3 premières questions. Pour ces 3 questions, je vous laisse 30 minutes, peut-être même 25 minutes, on va voir. Et puis on fera un débriefing et puis on interviendra après les 2 autres dernières questions. Je vous propose avant de commencer peut-être de prier. Et voilà, avant que ce soit quand même, on a un culte quand même particulier, certes, mais que le Seigneur aussi puisse nous parler ce matin et nous encourager. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole. Nous croyons que tu es présent parmi nous, Jésus. Tu es celui encore qui nous a devancés dans ce lieu et viens nous aider encore à mieux te connaître, à mieux encore, mon Dieu, discerner ce que tu es et qui nous sommes en toi, Jésus. C'est toi encore qui es notre Père, notre Dieu, viens encore travailler dans nos intelligences et dans nos cœurs. Amen. Alors, je vous propose du coup les 3 premières questions. 3 premières questions. Alors, sur la première question, j'ai mis des textes de référence, ça va vous aider à répondre. Un chrétien pêche-t-il encore? Si oui, peut-il encore être appelé saint? C'est la première question. Deuxième question, peut-on dire qu'un chrétien vit dans le péché? Et ici, si vous me dites oui ou non, c'est un pourquoi. Pourquoi du coup oui, pourquoi non? Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le péché? Troisième question, comment définir le chrétien? Est-ce que c'est un pécheur qui est sauvé ou un saint en croissance? Voilà, 3 premières questions, je vous laisse 25 minutes et puis on fera le point ensuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Pourquoi? Et du coup argumenter. L'autre est fausse, hein. C'est pas, elle est à demi fausse, elle est fausse. Et du coup pour vous aider à vous y répondre, j'ai mis 2 textes. Il y en a beaucoup plus, hein. Si vous pouvez en trouver plus, tant mieux. Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 et en fait ça rejoint la première question. Voilà, on fait le point dans 5 minutes. Est-ce que ça vous convient? Voilà, est-ce que vous avez terminé ou est-ce que vous avez besoin encore de temps? Si vous avez besoin de temps, un petit peu? Ok, allez, un petit peu de temps. Le point, mes frères et sœurs. Voilà, je vous propose du coup de répondre, de faire un point sur les 3 premières questions. Et puis, on attendra la deuxième partie. Donc, il y a 2 questions sur la deuxième partie. Et sur la deuxième partie, du coup, je vous laisserai, encore une fois 25 minutes pour pouvoir y répondre. Mais la deuxième partie risque d'être un peu plus, on rentre un peu plus dans le sujet. Donc, c'est bien qu'on puisse faire le point avant. Alors, sur la première question, un chrétien pêche-t-il encore? Et si oui, peut-il encore être appelé saint? Qu'est-ce que vous avez répondu? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y. Si vous voulez répondre, levez la main, il y a Damien qui va passer. Oui.
Alors, ce qu'on a marqué, c'est que, oui, on est toujours, on est pêcheur, on pêche toujours, mais on est appelé saint car nous sommes sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Donc, le péché est là, parce qu'on est pêcheur, mais... Seigneur, par sa sanctification, quand l'Esprit vit en nous, il nous libère. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché, on a été justifiés.
Alors c'est une bonne réponse. Allez, je vais vous donner du coup un élément de réponse que quelqu'un qui n'est pas chrétien m'a sorti quand je lui ai expliqué ça. Il m'a dit du coup, vous êtes des hypocrites qui vous affirment. Donc vous dites quelque part que vous êtes saint, mais vous péchez encore, donc vous êtes quelque part des hypocrites tout en étant sincères. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, Fred a répondu oui à la question, donc un chrétien pêche-t-il encore? C'est vrai, hein, voilà, on va pas faire de surprise, il suffit de voir nos vies, hein, on pêche encore, mais du coup, que répondre? Oui, Carice.
Il y a le côté de la chair qui, Le côté hypocrite, c'est le côté de la chair qui est en nous, et il y a le côté spirituel en nous, du coup c'est celui qui va nous dire par exemple je veux prier, alors qu'il y a le côté de la chair qui va avoir moins envie, et c'est là qu'il est aussi le péché.
Bon, en fait, si tu veux, ma question c'est, tu vois, si on dit qu'on est saint, malgré le fait qu'on pêche, est-ce qu'on n'est pas des hypocrites? Du coup, la question là derrière, c'est qu'est-ce que ça veut dire être saint? Est-ce que vous avez une définition de qu'est-ce que ça veut dire être saint? Oui, David? Ouais, tiens, Bruno, ça va être plus simple.
C'est être sanctifié par la croix.
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, quand on est croyant, on croit en Christ, on se repente, et quand on se repente, il nous pardonne et le péché est effacé, donc il nous rend saint.
Ouais, d'accord, c'est juste, mais tu tournes autour de la définition de saint. Mais ouais, c'est juste hein, ce que tu dis. Oui, Marlène?
C'est être mis à part et pur.
Être mis à part et pur, ouais, c'est une bonne définition. D'autres choses? Oui, Elsa?
Je pense que saint, c'est la position qu'on a en Christ.
Ah.
C'est mis à part, et donc du coup, Dieu nous voit à l'image de Christ, en Christ.
Ah, c'est intéressant, là. Là, on a un élément de réponse déjà qui est intéressant. Alors voilà, on va répondre quand même. Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse ou d'autres questions qui vous sont arrivées en répondant à cette question? Oui, Maggie?
Pour moi, je voyais avec ça, dans un genre, le côté communion avec Dieu. Donc, on a la capacité de rentrer en communion avec Dieu et avec sa lumière qui est en nous.
Oui. Alors, je vous propose du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez lu les textes bibliques que je vous ai mis. Je vous propose de les lire. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et 1 Corinthiens 6, verset 11, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et là, c'est intéressant parce que je vous ai mis ce verset de 1 Corinthiens, mais Paul parle aux Corinthiens. Je vous rappelle les chrétiens de Corinthe. Ils sont incestueux, adultères, voleurs, menteurs. C'est pour ça que Paul va leur écrire 2 lettres. Et il commence très rapidement en fait, hein, dès le début de son épître, chapitre 6, et même au deuxième verset de l'épître aux Corinthiens, premier épître, en leur rappelant qu'ils sont déclarés saints, qu'ils sont saints. Et du coup ici, ça nous interroge. Pourtant, Paul sait le mal qu'ils font, et pourtant il va ici leur rappeler quelque chose. Comment comprendre ça? Est-ce que Paul vit dans un déni de réalité? Est-ce qu'on peut dire qu'on est des hypocrites, comme il disait cette personne qui m'a répondu ça? Des hypocrites affirmés, c'est ce qu'il m'avait dit, je trouve ça intéressant comme concept. Alors je vous propose d'avancer. Alors voilà, le chrétien, comme l'a dit Fred, il pêche encore, on vient de le voir sur les 2 versets, et nous sommes appelés saints, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Mais ici, il y a une distinction assez claire à faire. C'est que le chrétien ici, c'est quelqu'un qui est déclaré saint par Dieu. La Bible est assez claire dessus. Mais un saint qui lutte encore contre le péché. Mais nous sommes appelés saints. Ça fait partie du coup de ce que nous sommes. Et du coup, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par grâce. C'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes. Donc tout dépend du coup de si nous avons placé notre confiance en Dieu ou pas. Donc il y a une tension ici, hein, entre saint et pas encore parfait, mais en fait on va y arriver à la deuxième question normalement, les deux sont assez liés. Sur la deuxième question, est-ce que c'est déjà assez clair sur la première? Un chrétien qui pêche, il est déclaré quand même saint. Du coup on arrive sur la deuxième question, du coup la question quelque part, ma deuxième question c'était, voilà, peut-on dire qu'un chrétien vit dans le péché? En fait, quelle est la différence? Jusqu'où on peut dire qu'il est encore saint et qu'il ne l'est plus? En fait, quelle est la différence entre un chrétien et celui du monde? Celui qui... Je disais, quelle est la différence du coup entre nous chrétiens et ceux du monde aussi qui pêchent, puisqu'on dit qu'on pêche? Est-ce que du coup nos péchés sont saints? Oui, Thomas?
Moi je pense que vivre dans le péché, c'est être conscient de ce que l'on fait et de ne pas vouloir en sortir. Et vivre et pécher, c'est on marche sur ce chemin de la sanctification, mais malheureusement on chute à cause de notre chair et peut-être des désirs mauvais de la chair, mais on a cette envie de demander pardon et de se relever.
Ok, et du coup la différence avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui pêche. C'est-à-dire, tu vois, nous on dit qu'on est saint et pourtant on pêche. Mais pourtant, ceux de l'extérieur, ils vont aussi pécher. Peut-être même des fois des péchés moins gros que les nôtres. Hein. Et pourtant, on ne va pas les dire, on va pas dire d'eux qu'ils sont saints. Pourquoi?
Parce que ils sont pas des nouveaux.
Alors Fred, c'est intéressant, elle me dit qu'ils ne sont pas conscients, mais des fois, nous aussi, on n'est pas conscients.
Oui.
Oui, alors, je sais pas si... Alors, attends, je vais passer le micro.
Ils sont pas des nouveaux.
En fait, quand on... Alors, on a pris un verset, c'est qu'on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc ça fait toute la différence parce que quand on est chrétien, on devient enfant de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, il nous montre, il nous reprend en fait quand on pêche, si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alors que dans le monde, nous on a la crainte de Dieu. Alors que dans le monde, en fait, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne le connaissent pas. Donc ils pêchent sans savoir qu'ils pêchent. C'est-à-dire pour eux, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, donc tout est inversé. Et bien que notre chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc c'est la parole qui nous dirige. Donc un chrétien, lui, ne se complaît pas dans le péché, en fait. Et Dieu pardonne quand nous nous repentons. Donc nous, on a la repentance.
Est-ce que déjà vous avez compris là ce que vient de dire Fred? Est-ce que pour vous aussi c'est clair, parce que là Thomas a donné une bonne définition sur vivre dans le péché, la différence entre péché et vivre dans le péché. Donc vivre dans le péché, c'est se complaire ou se dire Dieu m'aime, il va me pardonner et je continue à vivre ma vie telle que je suis. Là-dessus, la parole de Dieu est assez radicale, hein. Celui qui agit comme ça ne connaît pas Dieu. Mais du coup, il y a une différence entre se complaire dans son péché et ici péché. Maintenant, est-ce que c'est pour vous c'est assez clair ou pas? Ça reste obscur. J'ai synthétisé en une phrase. J'ai dit, voilà, le chrétien, ce n'est pas un pécheur qui essaie d'être saint, mais un saint qui lutte encore contre le péché. En fait, la différence, elle est primordiale. Si on commence à partir que du coup, ici, on est pécheur, en fait, on fausse déjà toutes les cartes. Le chrétien, du coup, ce n'est pas un pécheur, voilà, je relis ma phrase, ce n'est pas un pécheur qui essaie d'être saint, mais un saint qui lutte encore contre le péché. Alors je vous ai mis, ouais, j'ai oublié parce que je vous ai mis des réponses en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, donc c'est la première diapo, du coup on a ça. Le chrétien pêche encore, il est déjà saint, et c'est notre position en Christ. En fait c'est notre identité, ce qu'on parle d'identité en Christ. Le chrétien prend une autre identité, celle du divin, celle de Dieu. Nous sommes appelés des petits Christ d'ailleurs, des chrétiens, mais nous restons pas encore parfaits. D'ailleurs, c'est pour cela que dans les épîtres, il va beaucoup être question de péché, malgré que Dieu, Paul parle à dessein, et que nous parlons aussi de péché. Parce que ce n'est pas un problème, puisque nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore parfaits. Mais c'est une distinction à faire entre notre identité ici, et du coup, ce que nous faisons. Je prends un exemple. Un exemple, si je prends la graine d'un pommier, cette graine de pommier, elle va donner un pommier. Pourtant, durant tout le processus de développement, on va la mettre en terre. Qui va dire ici que c'est un pommier? Pourtant, concrètement, dans son identité, cette graine-là, c'est un pommier. C'est un pommier en devenir. Rien de cela ne change, même si on ne voit pas les fruits. Et lorsqu'il portera du fruit, on pourra dire que c'est un pommier, mais en fait, c'était déjà là avant. Ce n'est pas les pommes qui font que... je me rappelle, j'étais plus jeune, mais mes parents, ils avaient un pommier qui était... Une fois sur deux, ils ne donnaient pas des pommes. L'année où il ne donnait pas des pommes, c'était pas juste un arbre normal, c'était resté un pommier. Un pommier malade, mais un pommier quand même. Et du coup, on le traitait pas comme un érable ou autre chose, parce qu'il ne donnait pas de fruits. Du coup, l'identité, elle reste. Maintenant, il s'agit de régler peut-être les causes ici de la maladie, et le pas encore parfait que nous sommes, et qui reste aussi là. Donc il y a une tension ici, mais une séparation assez claire entre la nature de ce que nous sommes devenus, et du coup, ce qui reste encore, c'est-à-dire, nous péchons encore, mais c'est pas cela qui nous définit. Et on va voir après. Bon. Ouais. Bon. C'est la troisième question justement. C'est la troisième question. Donc, en fait, voilà, j'ai mis la différence elle entre identité et comportement. En fait, c'est là qu'il faut comprendre la distinction. Notre identité, elle ne bouge pas. Parce que notre identité, en mettant notre foi dans le Seigneur, du coup, nous sommes appelés saints. Le diable, lui, pourrait faire croire le contraire, pour nous définir par rapport à nos actions, mais je vous rappelle, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais par notre foi en Jésus-Christ. Si c'était par ce que nous faisons, oui, on pourrait se dire que, bah, ouais, là, je suis pécheur et je reste pécheur toute ma vie, et puis voilà. Mais en fait, t'as la distinction entre l'identité et le comportement. Maintenant, ça vient pas effacer notre comportement, et c'est important de pouvoir y parler. Paul, il va en parler pendant, voilà, c'est les deux tiers du Nouveau Testament, hein, quand même, le comportement. Mais il se ramène toujours, du coup, à l'identité. Ce que l'esprit fait en nous. Est-ce que c'est clair? Et donc, sur la deuxième question, peut-on dire qu'un chrétien vit dans le péché? La réponse, c'est non, c'est assez clair. Il y a des chutes, il y a des faiblesses, c'est normal dans la vie chrétienne, dans la vie quotidienne normale, mais on n'est pas dominé par le péché, puisque le chrétien est libéré par le Christ. Il est capable ici d'être libéré par le Christ. Alors voilà, maintenant je préfère préciser, dans ce qu'on dit péché ici, il y a aussi des luttes. Il y a des péchés, des fois, où il y a des luttes qui sont continuelles. Et là, il s'agit du coup de quel positionnement on a. Est-ce que c'est un positionnement où on dit quelque part c'est normal, je suis comme cela, où il y a une lutte continuelle qui se fait et qui se crée. Je prends un exemple. Je vous ai déjà cité cet exemple. Hein. Moi, j'étais pasteur du coup à Puteaux. J'ai suivi. Voilà, il y avait deux personnes qui étaient en prise avec un péché qui était l'alcoolisme ici. Et l'alcoolisme, il y a une addiction. C'est pas juste un péché que l'on fait parce qu'on a envie. L'addiction, ça dépasse autre chose. Et du coup, je me rappelle, il y avait dans le lot, il y avait deux frères notamment. Et un frère, du coup, qui se complaisait un peu dans cela en disant, mais c'est pas, en fait, je pense découragé aussi, peut-être. C'est pas grave, et puis je mène ma vie, ça fait partie de moi, quelque part. Et il cherchait pas, du coup, à lutter contre cela. Il cherchait plus, en tout cas. Et l'autre frère, lui, il a cherché durant toute sa vie, et d'ailleurs, il en est décédé. Décédé, du coup, des conséquences de l'alcoolisme. Et ce frère, moi, je dis, hein, qu'il est auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans son attitude, il a lutté jusqu'au bout. Et c'est pas ce péché qui définit ce qu'il est. Il a su ne pas être dominé par un péché. Il a su lutter par rapport à cela. Bien souvent, nous, on est d'accord avec cela, mais après, dans le concret, on n'agit pas comme cela. Et il s'agit pour nous, c'est le positionnement. Quel positionnement nous avons face à nos défis de comportement et nos péchés qui peuvent être là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. On a le temps ce matin. Sinon, on finira plus tôt, c'est très bien. Hein. Et du coup, troisième question. Troisième question, c'est comment définir le chrétien, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est un pécheur sauvé? Ou c'est... J'avais mis quoi? C'est un saint... Un saint en croissance. Qu'est-ce que vous en pensez? On est tous en croissance, ouais. Donc toi, tu partirais du coup sur... on a un saint en croissance, alors. Ok? Un pécheur sauvé. Alors les deux, non, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule réponse de juste. Hein. C'est la troisième question, ouais. Alors, attendez, parce que si je mets la réponse, si je mets la question, il y a la réponse. Mais la question, c'est comment définir le chrétien? Pécheur pardonné ou saint en croissance?
Non, non, c'était pour toi.
Est-ce que vous avez un élément de réponse ou...
Oui.
Oui, alors attends, Christine.
En fait, c'est très difficile parce que dans Galates, on a l'impression de comprendre que c'est le pécheur qui est sauvé et dans 1 Corinthiens, on a l'impression que c'est le contraire, nous sommes sanctifiés et tout. Donc, on retrouvait les deux réponses dans les deux versets différents. Donc, c'est ouais.
Allez, je vous donne la réponse, on ne va pas faire durer le suspense. En fait, ici, nous sommes des saints en croissance. Dire que nous sommes des pécheurs pardonnés, en fait, c'est mal comprendre. Du coup, la question qu'on vient d'aborder juste avant, ça veut dire que nous ne sommes pas définis par ce que nous sommes. Bien sûr, dans notre comportement, nous restons imparfaits et nous péchons encore, mais dire que nous sommes pécheurs sauvés, quelque part, nous ne rentrons pas dans l'identité que Dieu nous donne. D'ailleurs, c'est peut-être une des tentations du diable, hein, mais Dieu nous a donné une identité, nous sommes des enfants de Dieu. Et du coup, c'est cela qui nous définit, et ça change pas en fonction de ce que nous sommes. Donc nous sommes du coup des saints en croissance. Maintenant, voilà, on peut parler de péché parmi nous, parce que bien sûr, Paul y va en parler d'ailleurs, hein, et même Jacques, parce que du coup, il faut aussi traiter aussi le comportement. Mais avant de parler de cela, du coup, c'est aussi se rappeler que nous sommes des saints. Nous sommes des saints en croissance. C'est comme ça que la Bible nous appelle, elle nous définit. Et même si on pourrait se dire pécheur, sauvé, bah, ça peut être juste, mais en fait, on sort du cadre, et là, on rentre dans un cadre de la foi par les actions, par les œuvres, par ce que nous faisons. Ce qui est faux. Nous sommes des saints. Oui. Oui, Philippe.
Un pécheur, le péché, c'est Dieu. Donc après, c'est rejeter Dieu. Donc après, on peut parler de différents péchés. Mais un pécheur, quand on ne rejette plus Dieu, on n'est plus pécheur.
Oui.
Donc on, enfin voilà, c'est pas la peine de, enfin pas la peine. On peut parler d'alcoolisme, d'addiction, de n'importe quel autre, de la colère, tout ça. Mais ça, c'est plus être pécheur. C'est plus le péché en fait.
Oui.
Le seul péché, c'est le rejet de Dieu.
En fait, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, ton identité, c'est être saint. Maintenant, quand on pêche, bah du coup, voilà, on connaît quand même des fautes. Mais en fait, c'est dans un autre cadre que celui qui ne connaît pas Dieu. C'est dans le cadre ici de l'enfant de Dieu. Je prends un exemple. Imaginons, je sais pas, une famille royale qui adopte du coup un paysan pour devenir prince. Ce paysan qui va devenir prince, il n'aura pas tous les codes pour être prince. Pourtant, il est adopté en tant que prince. Il est prince. Il est déjà prince. Et du coup, tout le cheminement qu'il aura durant sa vie, c'est adopter tous les codes sociaux pour rentrer dans ce cadre de prince. Mais du coup, il ne se définit pas en tant que paysan royal. Ça n'existe pas, ça. Soit il est prince, soit il ne l'est pas. Maintenant, cet exemple-là, du coup, ça ne veut pas dire que du coup, bah, il aura du coup des erreurs, des manquements, mais son statut ici ne change pas. Et du coup, ici, quand on parle de péché parmi nous, il ne faut pas non plus qu'on ait peur de parler de péché. C'est dans ce cadre-là. C'est pas dans le cadre que je suis pécheur par identité, mais par le comportement. Oui.
Il y a pécheur sauvé, là, comme ce verset qui dit, car, alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Okay. Mais si on part du fait, après qu'on a été rendu saint, donc le saint, je suis sainte, c'est ma position en Christ, alors il n'y a pas de croissance. Ma sainteté ne va pas grandir. Je suis autant saint qu'une personne qui vient de venir à Christ. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que ça, après, il y a l'autre chose, c'est j'ai été rendu saint, il n'y a jamais sanctifié. Et en cela, il y a une croissance.
Tout à fait.
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre.
Ouais. Alors c'est intéressant, et ta question, elle va venir répondre. C'est les deux prochaines questions que je vais vous amener à réfléchir. Puisque ici, il y a une tension et où la Bible, du coup, parle. Et des fois, on n'en parle pas assez dans nos églises. Pourtant, c'est une théologie chrétienne qui ressurgit. C'est que il y a notre identité, mais en fait, il y a une différence entre notre identité actuelle. En fait, l'identité, elle changera pas. Même quand on sera avec le Seigneur, elle changera pas. Mais il y a une différence, du coup, entre cela. Et du coup, entre notre vie ici-bas et notre vie là-haut, il y a quand même une différence. Mais c'est pas notre identité ici qui change, c'est le comportement. En fait, ici, la tension et le mélange qu'on peut faire, c'est l'identité et le comportement. Mais en fait, le comportement, ici, lui, il reste imparfait, il reste... Mais on va voir après, hein, des éléments de réponse. Je donne un exemple simple, et ça va tout à l'heure, vous allez devoir réfléchir par rapport à cela. On dit que Christ a tout vaincu à la croix. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, on continue de pécher, la mort, elle est toujours là, même dans la vie des chrétiens. Mais du coup, ce texte-là, pourtant, qui est clair, hein, du coup, comment le comprendre, en fait, dans tout cela? Mais ça va être les prochaines questions. Oui, Jérôme.
Si on est justifié par le sacrifice de Jésus, parce qu'on a mis sa confiance en lui.
Parce qu'on n'entend pas.
Je perds le fil. On est justifié par le sacrifice de Jésus parce qu'on a mis notre confiance en lui et on l'a accepté dans notre vie. Donc du coup, on est justifié par lui.
Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, j'ai synthétisé un petit peu. En fait, là, la différence, mes frères et sœurs, ce matin, c'est faire la distinction entre l'identité et le comportement. En fait, c'est vraiment ça la distinction à faire. C'est ne pas mélanger les deux. Et en fait, en parlant comme cela, ça nous permet d'ailleurs d'avancer. Tu vois, pour répondre à ce que tu disais, Elsa, tu vois, si on se définit dans notre identité en tant que chrétiens, des enfants de Dieu, dans le comportement, ça suivra. Parce que nous nous rappellerons, du coup, quelle est notre identité. Le diable, lui, il fera pas ça. Il cherchera à agir par rapport à ce que nous agissons. Mais le Christ, en fait, Dieu, quand il nous voit, malgré que nous faisons des fautes, c'est pas nous qui le voit, c'est le Christ qui le voit en nous, parce que nous avons accepté Christ. C'est ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que c'est pas nous que Dieu voit, c'est le Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. En fait, là, c'est tout le salut. Hein. Oui, Carving.
La réponse ne se trouve pas un peu dans le fait qu'on a souvent pris le mot sanctification comme une démarche d'être plus pur ou un truc comme ça, genre on est plus proche de Dieu, on se rapproche, ce qui est tout le contraire. C'est que sanctification, c'est mettre à part, c'est-à-dire métanoïa dans le grec, c'est que Dieu te met à part, mais tu seras jamais dans ce corps parfait.
Ah ouais, c'est intéressant, ouais.
Ce qui fait que, ouais, tant que tu es dans ce corps, tu es faillible.
C'est ça. Alors après, dans ce que tu dis, il y a quand même un élément à corriger ou en tout cas à préciser. La sanctification doit nous amener à être de plus en plus parfait. En tout cas, c'est le chemin de la sanctification. C'est-à-dire que même si on le sera pas jusqu'à la fin de nos jours, il y a quand même un cheminement à avoir. C'est-à-dire que le chrétien doit pas rester au même niveau pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas possible. L'action de l'esprit qui est en nous, je prends l'exemple du paysan qui devient prince, la famille royale attendra du coup de lui, c'est une histoire vraie hein, que je parle, attendra de lui qu'il prend les principes de la famille adoptive. Il y a de la clémence au début, mais pas pendant 20 ans. À un moment, il faut qu'il devienne prince.
Et cette œuvre de sanctification, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous.
C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui agite en nous. Ouais. Oui, Marlène.
On peut comparer peut-être tout ça aussi avec le sport de haut niveau. Des gens qui se consacrent à la compétition, donc qui s'engagent à faire de la compétition, et dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'occasions de regarder s'entraîner et performer des gens de très haut niveau, notamment les derniers en voltige équestre. Et j'ai vu des champions du monde à l'entraînement qui sont tombés. D'accord ? Ils tombaient, soit du cheval mécanique ou du vrai cheval, parce que ils essayaient toujours d'inventer aussi, de sortir un petit peu de la zone de confort. C'est-à-dire pour nous, sortir de la zone de confort, c'est aussi d'aller témoigner avec d'autres personnes, d'oser prier avec d'autres personnes, d'oser ceci, cela. Et on va rater des choses, parce que ça fait partie de l'apprentissage. De temps en temps, il y a une taxe d'apprentissage à payer, parce qu'on prend une claque. Et ce qui est extraordinaire avec ces voltigeurs ou les gens qui veulent faire de la compète, c'est qu'ils cherchent tout le temps des retours. Et qu'ils payent des entraîneurs pour leur dire « ça, il faut que tu fasses encore plus ». Et à un moment donné, j'avais interrogé, il y a très longtemps, un gars qui a fait deux fois les Jeux Olympiques, qui était un gars du cadre noir, et je lui ai dit « est-ce que vous avez un regret par rapport à votre carrière ?» Elle me dit « oui, je regrette de ne pas avoir travaillé suffisamment les bases ». Toujours les bases. Et on peut en apprendre beaucoup, parce qu'ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à payer le prix et puis ils se relèvent tous les matins. Et c'est un engagement vraiment remarquable. Alors pour beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, j'avais bien sûr la tristesse qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais d'avoir des chrétiens dans cet état d'esprit, ça serait franchement extraordinaire, quoi.
En tout cas, voilà, pour synthétiser, c'est intéressant là tout ce que vous dites là, on n'est pas défini du coup par notre passé de pécheur, mais ici par ma nouvelle identité, je suis saint, lavé, justifié. C'est ce que Dieu nous appelle. Et ça nous permet dans nos combats de tous les jours de pouvoir nous rappeler comment Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas du coup par ce que nous faisons, nous pouvons faire, mais du coup par l'identité qu'il nous donne, et dans laquelle nous pouvons après lutter contre les fautes et le péché. Ça ne veut pas dire du coup que je ne pêche plus, mais que ce n'est pas le péché qui me définit. C'est la grosse différence du christianisme. Le péché ne me définit pas, même si je continue de pêcher. J'ai pris l'exemple de ce pommier, hein, qui donne pas de fruits, il reste un pommier. Un pommier malade, mais il reste un pommier. Ce pommier, le but, c'est qu'il donne des fruits. Donc bon, c'est intéressant parce que le pommier de chez moi, il a mal fini puisqu'au bout de 10 ans, mes parents, ils l'ont coupé. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, c'est pour nous, il s'agit de nous identifier à l'identité que Dieu nous donne. Nous sommes ici des saints en croissance.
Oui. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la fin de la vie éternelle.
Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est clair? Du coup, alors, je préfère préciser, puisque là, en ce moment, à l'Église, on aborde la thématique du péché, hein. Donc, et ça vient pas en contradiction avec cela. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, hein, certains ont lu des textes, hein. Paul qui va parler comme ça aux Corinthiens. En fait, il commence comme ça l'épître aux Corinthiens, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit pas que tout va bien, bien au contraire. Il va leur dire, vous êtes des idolâtres, vous êtes des pécheurs, vous êtes... Mais quelque part, en fait, Paul a replacé le cadre. Le cadre, il rappelle aux Corinthiens, en fait, qu'ils doivent se rappeler qu'ils sont ici des saints. Ce que les Corinthiens avaient oublié. Et du coup, ce qui fait que c'était par les œuvres qu'ils agissaient. Alors, pour synthétiser, vous pourrez relire chez vous, hein, c'est Romains 6. Romains 6 explique très bien tout cela. Donc, notre identité, du coup, qui est dans... Voilà, nous sommes saints, nous avons une autre identité. C'est le texte que j'ai mis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je propose de passer par la suite, sauf si vous avez d'autres questions. Sinon, on va passer aux deux dernières questions. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour chacun de vous? N'hésitez pas, hein, si c'est pas clair, parce que c'est assez abstrait ce matin. Mais c'est un sujet important, puisque ça permet aussi, dans notre avancement, de pouvoir, voilà, comment on se positionne. Oui, Gilles.
Juste quelque chose que je remets en avant. Nous sommes saints. C'est bien ce qu'on décrit ce matin, mais c'est pas par nous-mêmes. C'est par le Christ qui vit en nous, quoi. Parce que on peut pas dire à un pécheur en face de nous qui nous traiterait d'hypocrite, on peut pas dire je suis saint. Il va dire mais tu es qui, toi? C'est notre occasion de dire mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que par moi-même, je serais pécheur.
C'est la réponse que j'avais donnée du coup à la personne qui m'avait répondu. Du coup, c'est pas de l'hypocrisie, oui, c'est l'action du Saint-Esprit en nous qui agit. Je vous pose les deux prochaines questions. Question 4, question 5, j'ai mis des textes pour vous aider à y répondre. Pourquoi Dieu permet-il que nous luttions encore contre le péché, du coup, après la conversion? On a quand même un Dieu qui est bon. Du coup, pourquoi, du coup, on dit que Dieu a tout vaincu à la croix, et pourtant, des fois, quand on nous voit, on se demande qu'est-ce qu'il a vaincu. Et du coup, voilà, quelque part, pourquoi Dieu permet cela? Question que je vous pose. Et puis, cinquième question, comment vivre avec la réalité que je suis déjà saint en Christ, mais que je reste... Et ça reste aussi important. Je reste encore pécheur dans ma vie quotidienne. En fait, il y a une tension à ne pas oublier entre mon identité et ce que je fais et que j'ai besoin d'avancer. Si j'oublie ce que je fais, quelque part, je ne pourrais pas avancer dans le chemin de sanctification. C'est Elsa qui en a un peu parlé, elle a raison. Et du coup, c'est comment vivre l'identité tout en n'oubliant pas notre comportement qui, lui, a besoin encore d'être travaillé et d'avancer. Et je vous ai mis aussi quelques textes puisque Paul, il va en parler. Voilà, je vous laisse 20 minutes et puis on fait un dernier point avant de se quitter. Faire la synthèse. Alors la quatrième question, c'était pourquoi Dieu permet que nous luttions encore contre le péché après la conversion? Est-ce que vous avez une idée? Levez la main, puis il y a Bruno qui est là, il vous donnera la voix. Pourquoi du coup, si Dieu nous aime, il nous déclare saints, on vient de le dire. Du coup, pourquoi Dieu permet qu'on lutte encore avec le péché? Et en plus, on dit qu'à la croix, Christ a tout vaincu. Il a vaincu le péché, les dénominations. On le dit, ça. Oui. Puis après, il y aura Christine.
C'est des mises à l'épreuve.
C'est des mises à l'épreuve, mais pourquoi?
Bah, pour voir où est notre foi par rapport à Dieu.
Ouais, ça en fait partie, ouais. C'est un élément de réponse.
Il nous teste en quelque sorte.
C'est un des éléments de réponse, oui. D'autres
Malgré
choses
qu'il connaît, il connaît notre cœur, il connaît notre vie, il sait ce qu'on pense, mais des fois, il veut voir jusqu'où on peut aller.
Tout à fait, c'est un élément de réponse. Tout à fait juste. D'autres choses ? Nous fortifier et nous affermir. Oui, ouais, Jean-Marie ?
Je pense que c'est plus pour éviter l'orgueil.
Ouais. Alors ça, c'est un des premiers points que j'ai mis, c'est l'humilité.
Ouais, l'humilité.
Nous garder dans l'humilité. Nous savons très bien que l'humilité, c'est une des choses qui manque. Donc, ouais. Donc, Dominique a parlé du coup ici, donc l'épreuve, l'humilité.
Mais c'était donc justement pour qu'on ne se prenne pas pour son égal et qu'on ne s'enorgueillisse pas de devenir saint. C'est aussi pour qu'on puisse continuer à se retourner vers lui, demander pardon, reconnaître notre péché et continuer ce chemin-là au lieu. Voilà. Donc,
tout à fait.
C'était éviter la vanité.
Ouais. Alors attends.
L'épreuve nous permet à ce qu'il nous amène à vivre dans sa volonté dans l'épreuve, c'est-à-dire à nous remettre entre ses mains. Quand on voit que dans notre faiblesse, on a besoin de lui, c'est quand dans notre faiblesse qu'on devient humble, parce qu'on réalise qu'on a besoin de lui pour sortir de notre épreuve. Et donc cela nous amène à le rechercher, et donc à vivre dans sa volonté, et que nous dépendions totalement de lui et qu'il devienne notre maître dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est pour nous amener dans l'humilité.
C'est juste, hein, je suis d'accord, mais du coup, Dieu il aime pas le péché, on est d'accord, hein, il est saint. Mais du coup, pourquoi il utilise est-ce que du coup c'est un moyen qu'il veut? Ou pas?
Bah là où le péché abonde.
Ah ouais, c'est permis. En fait, ici Dieu utilise nos faiblesses, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il veut, parce que Dieu n'a rien à voir avec le péché, il n'est même pas l'auteur ni le créateur, mais en fait il permet. Dans nos faiblesses, que nous puissions avancer. Oui, Liliane ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs versets qui me viennent à l'esprit, mais il y a vraiment un qui m'a beaucoup rassurée, moi, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde et qu'on dépend encore plus de la grâce. Et il y a un verset que j'aime énormément qui dit 1 Pierre 1:7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et en fait, je pense que vraiment, le péché nous rappelle à quel point on est faible. Pécheur et en même temps qu'on est aimé parce que on dépend pas de nos propres efforts ou nos exploits ou enfin moi je sais que par le passé je croyais qu'on allait de gloire en gloire et je sais pas pourquoi mais je croyais que c'était la honte dès qu'il y avait un problème quoi et en fait finalement j'ai réalisé que voilà sa grâce nous suffit il a déjà tout accompli Jésus et que finalement c'est pas d'autres miracles ou d'autres choses qu'on va pouvoir vivre. Non, c'est à travers ces luttes et ces difficultés que finalement, il est encore plus mis en avant, plus glorifié, et que c'est lui qui transforme le mal en bien. Vraiment.
Ouais, c'est ça. Bon, vous avez répondu un peu à tout. Il y avait d'autres peut-être remarques ? Oui ? Gilles, alors il y a David. Voilà, Gilles, peu importe.
D'après tout ce que je lisais par rapport à les versets, il y a tout ce qui a été dit, c'est vrai, il y a combattre l'orgueil, la reconnaissance de Jésus, la dépendance de lui, c'est pour voir notre positionnement quotidien et pour nous amener à tendre vers la perfection. Je pense aussi que Dieu permet cela, il nous modèle à travers tout ce que nous vivons de toute manière. Pour l'accomplissement, je réponds peut-être déjà un peu plus loin, à Éphésiens 4, nous rendre parfaits à la plénitude parfaite de Christ. Et c'est dans ce sens-là qu'il permet encore ses difficultés. Ouais. Il a tout accompli. De toute manière, il sait déjà où nous serons, il sait tout. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas conformes à Christ. Ils nous conforment à Christ, ouais, de plus en plus.
Malgré le fait que nous sommes saints.
Oui.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça.
Je crois que il ne faut pas oublier qu'on est des soldats du Christ. On est dans une guerre. On a un ennemi, toujours, qui est bien là, bien présent. Et donc, c'est pour ça que, bon, l'Épître aux Éphésiens, il nous a parlé de l'armure du chrétien.
Tout à fait.
Donc, s'il y a armure, il y a combat. Ouais. Combat quoi ? Combat de qui ? Ouais. Donc, je crois qu'on n'est pas sur un lit de rose. On a un combat. On est des soldats. Debout, sainte cohorte. Soldat du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la foi. Ouais. Je crois qu'il faut se souvenir de cela. On n'est pas des bisounours. Tout il est beau, tout il est gentil, tout il est mignon. Non, nous allons croître. Et pour ressembler à Christ, ben, il y a du boulot, hein.
Ouais,
et Christ va pas nous, oui, il y a du boulot. Et Christ va pas nous, tu veux y aller, mon enfant? Ben, vas-y, suis-moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est pas facile. Moi, je relisais ça ce matin. Je me dis, Colette, est-ce que tu vraiment, tu renonces? Est-ce que tu as renoncé même à ta vie propre? Ta propre vie? C'est ça le combat que nous menons.
Tout à fait,
on a un combat.
Ouais. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser ce que tu dis là. En fait, là, il y a une tension et on va y répondre à la question 5. Il y a une tension, du coup, hein. On le voit, hein. Entre le combat, la discipline qu'on doit s'y mettre, et aussi, parce que c'est l'action de Dieu, en fait, qui permet cela. Mais ça me fait penser, tu vois, ce que tu dis, et effectivement, il y a un combat spirituel, c'est-à-dire qu'on doit se positionner, mais en fait, c'est pas par nos propres efforts. Par nos propres efforts, c'est impossible. D'ailleurs, c'est ce passage-là, bien souvent, on sort ce verset de son contexte, où Paul, Jésus, il va parler, il y a cet homme riche qui arrive, et qui, alors je fais très rapide, hein, et qui a du mal à lâcher ses biens pour le suivre. Et les disciples vont être choqués, et qu'est-ce qu'il va répondre? Jésus va être très humain, il va dire mais c'est impossible. Il va répondre, il va conforter du coup la vie des disciples et des apôtres. Et il va répondre cette phrase, mais rien n'est impossible à Dieu. De nous-mêmes, c'est impossible de lâcher ce qu'on est. Je disais cette semaine avec le groupe là, Cours Explorer, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous tuent, ceux qui nous maltraitent. On peut le faire pendant un temps, mais pas sur la durée. Et ce sera pas peut-être du vrai amour d'ailleurs. Mais en fait, si nous nous revêtons dans notre identité en tant que saints, nous avons Christ en nous. Nous pouvons le faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Pour nous, êtres humains, on ne pourra pas tenir sur la durée. Il ne s'agit pas pour nous, chrétiens, et bien souvent c'est le cas dans nos églises, on devient comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. On essaye par nos propres efforts de lutter contre un ennemi qui nous dépasse. Le péché nous dépasse. Mais en fait, c'est le Christ qui l'a vaincu. Ce n'est pas nous, c'est le Christ qui l'a vaincu. Et ce que Dieu nous appelle, c'est de le laisser grandir à travers son Saint-Esprit qui agit en nous. Et le Saint-Esprit ici, c'est quelque chose qu'on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire, ce que Dieu nous demande, c'est d'être dans la repentance et de le laisser quelque part agir au plus profond de nous. Pour que le vouloir, l'être, change quelque part. Et que nous puissions, quelque part, avancer de progrès en progrès. Avec l'armure, tu vois, tout le combat spirituel, hein, qui va avec. Où il y a un positionnement. Mais en fait, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est pas humain, là, quelque part. C'est un combat qui est déjà gagné, d'ailleurs. mais qui est encore en cours. Est-ce que ça va? Oui, Carving.
Comme Dieu a donné la loi aux Israélites, en fait, il a donné la loi pour les amener à leur fin, en fait, pour qu'ils se rendent compte que je peux essayer d'obéir 10, 20. Les Israélites, ils ont 623 mitzvot, je pense qu'ils doivent obéir, mais ouais, ils n'y arrivent jamais. Donc, la loi est la loi qui définit le péché. C'est pour nous amener à notre fin.
Bah, tout à fait. Et puis, même sans prendre des Israélites, on va prendre nous, parce qu'on vient de parler pour des gens qui sont, mais même dans vos vies, peut-être que vous l'avez expérimenté, hein, ou pas. Alors, si vous l'avez pas expérimenté, j'espère que Dieu, il travaillera dans vos cœurs, parce que normalement, c'est le cas. Quand c'est des péchés qui sont banaux, on arrive peut-être par nos propres efforts de pouvoir, mais il y a d'autres choses qui sont, alors, quand ça touche, des fois, à notre identité familiale, la culture familiale, l'éducation que l'on a, culture qu'on nous a donnée, parce que toutes les cultures ne sont pas bonnes. Hein. On a une culture française, culture, alors là, je prends mon origine, culture indienne, culture d'autres pays. Toutes les cultures, il y a des choses bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Comment on filtre pour être dans la culture du royaume de Dieu? Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais du coup, il s'agit ici de se conformer, du coup, et de laisser l'Esprit de Dieu, en fait, agir en nous pour qu'il puisse faire qu'ils puissent revoir en fait en nous quelque part ce que nous ne pouvons pas être. Et là quelque part c'est la dépendance à Dieu. Et vous l'avez expérimenté, hein. Si on le fait par nos propres efforts, on peut des fois se mettre plein de disciplines, mais en fait on tient pas dans la durée. Et puis ça devient lourd, ça devient sec. Je donnais l'exemple au groupe là. Moi j'ai pris mon baptême en 2005. Et je parlais de la grâce de Dieu, mais en fait je saisissais pas du tout ce que ça voulait dire. Hein. Je remercie Dieu pour la croix, sans connaître vraiment ce que c'était. Et j'ai vraiment connu Dieu. Pour moi, je pense que voilà, la vraie nouvelle naissance, elle est arrivée 6 ans après, où Dieu m'a interpellé sur des combats personnels que je vivais et où je n'arrivais pas à sortir. Et le dimanche matin, je faisais semblant que tout allait bien. Et au fond de moi, je trouvais que la vie chrétienne c'était sec, c'était trop dur, c'est impossible en fait. Et où j'ai compris quelque part que je ne suis pas défini par ce que je fais. Je suis sauvé malgré tout. Et Dieu ne m'attend pas sur des efforts personnels tout seul. Il m'attend à ce que je fasse avec lui. Et c'est ça ici, la clé. Et là, je reviens, hein, mes frères et sœurs. J'en ai parlé cette semaine avec le groupe. Il y a 3 moyens hein, dans le culte personnel. La parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. C'est-à-dire de manière concrète, du coup, avec ces 3 moyens, ça permet aussi d'avancer, de se sanctifier et de pouvoir voir le Christ des fois quand nous, le Christ, il est petit dans nos vies. J'ai pris l'exemple du bouc. Hein. Dans nos vies, on a tous un bouc que Dieu a déclaré mort, mais qui a des soubresauts des fois et qui peut grandir. Il s'agit pour ce bouc-là de le laisser à sa place et qu'il puisse diminuer de plus en plus. C'est toute la vie chrétienne. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, peut-être David, tu avais une remarque? Alors attends, il y a Bruno qui arrive.
Ce qui répond un peu à cette question, moi je trouve, c'est 1 Corinthiens 5:5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. En fait, s'il permet, c'est parce qu'à la fin, il veut nous sauver, quoi.
Tout à fait, après on est déjà sauvé. Hein. Donc,
1 Corinthiens 5:5.
Et ici, on va aborder la 5e question. Alors voilà, pour le 4e, voilà, j'ai mis quelques éléments qui généralisent, mais c'est l'humilité. Humilité et sanctification, ça va ensemble, ça fait partie de la lutte. Coopérer avec l'esprit et nous transformer progressivement. C'est Paul hein, qui va dire ceci, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul, c'est l'apôtre qui guérissait les malades. Hein. Par 3 fois, on pense que c'est une maladie des yeux qu'il va avoir. Il va demander le Seigneur par 3 fois de le guérir, et le Seigneur va dire, ma grâce te suffit. Et ici, ça montre ici quelque part que Dieu permet quelquefois au péché encore de nous rappeler, c'est l'orgueil, Paul parle d'orgueil, de rester dans l'humilité, la dépendance à Dieu. 5e question, comment vivre du coup avec la réalité que je suis déjà saint en Christ, mais que je reste encore pécheur dans ma vie quotidienne? Je vais remettre la question. C'était la 5e question. Comment vivre avec la réalité que je suis déjà saint en Christ, mais que je reste encore pécheur dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Là, c'est concret, du coup. On parle d'identité, mais dans le comportement, c'est ça qu'on doit travailler, quand même. Hein. Du coup, comment faire? Et Fred?
On a répondu que on pouvait vivre cette réalité en sachant où on va et pourquoi on le vit. C'est-à-dire qu'on a comparé avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le monde et qui voient le péché dans le monde, tout ce qui ne va pas bien. Et eux, ils ne savent pas où ils vont. Donc, ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans le fait qu'ils ne savent pas, après la mort, ce qui se passe. Il y en a qui ne se posent pas la question. Ils peuvent vivre cette vie terrestre dans l'anxiété et voilà. Nous, on est chrétiens, on sait où on va, on sait pourquoi on lutte, pourquoi on vit des épreuves dans notre vie et notre espérance, c'est la vie éternelle. En fait, on sait que notre nom est inscrit dans le livre de vie et pour nous, on sait pourquoi on lutte, pourquoi on vit ces épreuves et on sait qu'il y a mieux après. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une victoire qu'on remportera, et puis le combat est déjà gagné, parce que Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli sur la croix, on sait qu'il y a la vie éternelle, et donc il y a le salut, et on sait qu'on sera sauvé par grâce. Donc on peut mieux vivre cette réalité parce qu'on sait pourquoi on la vit et où on va.
Est-ce que vous avez d'autres éléments? Écoutez, je vais vous donner un élément de réponse, et puis je pense peut-être que vous aurez des questions suite à ma réponse. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. En fait, je vais relire les textes, parce qu'ils sont importants ces textes-là. Philippiens 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà été atteint, que j'ai déjà atteint la perfection. C'est Paul qui parle, hein. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. 1 Thessaloniciens, que le Dieu de la paix vous rende lui-même parfaitement saint. Ça veut dire qu'on ne l'est pas complètement. C'est ça qu'il veut dire. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Puis Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. En fait, dans la théologie chrétienne, des fois on le dit, mais peut-être qu'on le rappelle pas assez. Hein. En fait, il y a le déjà et le pas encore. Là, c'est toute l'attention qu'on a vue ce matin. Nous sommes déjà saints et pas encore. C'est-à-dire que nous le serons parfaitement à l'avènement du Christ et c'est lui qui fera pleinement cette œuvre parfaite à ce moment-là. Et du coup, nous sommes encore en cheminement. C'est ce que Paul rappelle. Et dans tout l'évangile, c'est cela. Il y a le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà sauvés, mais pas complètement. Nous vivons déjà dans le royaume de Dieu, mais pas complètement. Et en fait, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tout n'est pas ici déjà acquis. Nous sommes justifiés, lavés dès la conversion, mais nous ne sommes pas encore quelque part ici parfaits. Enfin, c'est tout cela, quoi. Alors, dans nos églises, je parle de manière générale, hein, pas que ici à Saumur, hein, je parle de manière générale, dans l'église quelque part chrétienne, il y a les deux extrêmes. Tout à l'heure, on a parlé d'identité. Est-ce que c'est clair? L'identité, du coup, nous sommes saints. Et là, voilà, là-dessus, ça bouge pas. Là, on parle de comportement. C'est l'autre sujet. Dans le comportement, il y a les deux extrêmes. On peut avoir, du fois, des chrétiens qui pensent que, du coup, ils sont pécheurs pardonnés. Et du coup, ces chrétiens-là, c'est un des extrêmes. Et en fait, leur tendance, et c'est le piège, ils mettent l'accent sur l'expérience de la chute et des échecs. Quelque part, ils ont conscience de leur péché quotidien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais ils définissent leur identité par le péché. Et ça peut être le piège. Même pardonner, du coup, ils le croient, mais en fait, du coup, ils ont du mal, en fait. Parce que, du coup, c'est ce qu'ils vivent à chaque jour qui passe qui les renvoie quelque part à leur propre misère. Et le risque ici, c'est la culpabilité permanente. C'est le manque de confiance dans la grâce et sentiment de médiocrité spirituelle. Alors, dans les faits, personne va le dire. Tout le monde va dire non, mais c'est la grâce. Mais en pratique, certains vont vivre cela. La culpabilité, la médiocrité spirituelle. Mais Dieu nous appelle pas à cela. Dans nos fautes, je dois me rappeler, peut-être que c'est même le dire, je suis un saint. C'est peut être dur, hein. Mais l'identité que le Seigneur m'a donnée, c'est que je suis saint. Et ça, c'est libérateur. C'est nous replacer dans le cadre. Et malgré le fait que dans mon comportement, eh ben, ça n'enlève pas ce que je fais qui est mauvais. Et là, quand je le déclare, c'est parce que je viens ici combattre une autre voie qui est celle du diable et du péché en nous-mêmes. C'est pas que le diable à chaque fois, qui vient montrer peut-être un autre chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Nous sommes des enfants par adoption. Le risque, et puis il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est ceux qui pensent qu'ils sont déjà entièrement saints. Comme les Corinthiens. Les Corinthiens, et d'ailleurs même dans beaucoup d'églises, il n'y a pas que les Corinthiens, ils vont penser, il y a certaines églises du coup, alors il y a les Corinthiens, mais il y a une autre église, j'oublie le nom, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je sais que les Corinthiens, c'est le cas, et Paul va les reprendre en disant qu'ils ont oublié qu'il y a le pas encore. Les Corinthiens avaient saisi qu'ils étaient saints, mais ils avaient oublié que dans le comportement, Dieu les appelle à travailler, ce que rappelait Colette, il y a un combat spirituel. C'est pas juste tout est gagné, maintenant ça suffit. Mais les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient des choses justes en disant, Christ a tout vaincu à la croix, j'ai placé ma foi en Jésus, maintenant tout baigne. C'est le Christ qui fera en moi. Et du coup, en enlevant, ils avaient raison dans l'identité, mais en oubliant le comportement. Dans le comportement, Dieu nous appelle à travailler. Ça ne vient pas changer notre identité, mais à faire les efforts, à mettre les choses en place, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, l'aide de son Saint-Esprit, pour pouvoir avancer. Est-ce que vous voyez la différence? Donc il y a les deux extrêmes. Croire qu'on est pécheur pardonné et croire que nous sommes déjà entièrement saints. Mettre l'accent du coup que sur la position en Christ et parfois du coup sur une expérience de vie chrétienne parfaite et du coup on peut ne pas accepter le péché dans cette position-là. Alors que dans le Nouveau Testament, bon, si on enlève le péché, on enlève les deux tiers du Nouveau Testament. Paul il écrit des lettres, pas parce que les églises elles sont bien, hein, c'est parce que dans le comportement, derrière il va leur rappeler, hein, si vous pensez du coup que vous n'êtes pas des pécheurs, vous vous mentez à vous-même. Et il parle aux Corinthiens qu'il a déclaré ça hein, juste avant. Paul, il n'est pas schizophrène, hein. Il n'a pas un problème. Il leur rappelle l'identité, mais dans le comportement, il travaille le comportement. Le péché est encore là, il faut le définir, c'est le péché. Mais par contre, c'est pas le même péché que celui qui ne connaît pas Dieu. Vous restez saint et vous devez vous raccrocher à ça pour travailler dans votre sanctification. Dans le premier cas, du coup, c'est la culpabilité, celui qui pense qu'il est pécheur pardonné. Dans le deuxième cas, c'est en fait on est déconnecté de la réalité. On pense qu'on est déjà au ciel et du coup on vit plus. Du coup ici, le pas encore. Dieu nous rappelle qu'il y a le pas encore. Donc le déjà saint, c'est la position. Pas encore parfait, c'est la vie. C'est l'expérience, c'est ce que nous vivons. Mais ça ne vient pas changer notre identité. Notre identité est en Christ, et non dans nos échecs. Nous continuons, du coup, à lutter contre le péché, malgré le fait, et Paul va le rappeler, vous avez été lavé, sanctifié, justifié. Mais ça, c'est ce à quoi on doit s'accrocher. Il rappelle ça aux Corinthiens, pour qu'ils se raccrochent à ça, malgré qu'eux, ils sont incestueux, adultères, Corinthiens, c'est n'importe quoi, il y avait même des nudistes à l'église, vous imaginez, j'imagine pas ici, ce serait la catastrophe, je ne savais pas comment faire. Paul va réagir, et pourquoi les Corinthiens font comme ça? Parce qu'ils sont dans le pas encore, ils sont dans le côté, alors ils ont oublié le pas encore, pour eux tout est parfait, du coup, voilà, Dieu m'a accepté tel que je suis, et c'est un peu McDonald's. Non, il y a le pas encore, je dois faire attention. En moi, les Corinthiens ont oublié qu'il y a le bouc, le péché que Dieu a crucifié à la croix. C'est une sentence qu'il a prononcée, mais il y a le pas encore. Ce péché, il est encore là. Il n'est pas complètement mort. Il le sera pleinement, comme disait Paul, à l'avènement du Christ. Du coup, à la croix, Jésus a déjà tout vaincu, mais il y a le pas encore qui est là. Et ce pas encore, si on le nie, on nie ce que l'on vit tous les jours. Et d'ailleurs, les chrétiens qui le nient, qu'est-ce qu'ils vivent? En fait, ils disent, du coup, tout doit être parfait. Du coup, dès qu'ils pêchent, c'est la culpabilité qui rentre. Parce qu'ils oublient la condition du pas encore. Est-ce que c'est clair? C'est assez abstrait ce matin, mais c'est important. Oui, Christine?
Moi, je m'interpellais sur le premier mot.
Oui.
Comment?
Ouais.
Comment vivre?
Ouais.
Et je me suis dit qu'il n'y a que deux mots qui peuvent vraiment m'aider à vivre cette réalité ou cette double réalité. C'est faire grandir ma confiance en Dieu et faire grandir ma foi.
C'est tout à fait ça.
Voilà, parce que le comment, c'est l'essentiel de cette question, finalement.
C'est ça. Et en fait, c'est ça, et tout en n'oubliant pas, du coup, notre condition actuelle. Il y a le pas encore. Il y a d'autres exemples bibliques. J'ai parlé du royaume de Dieu qui est déjà venu. C'est Jésus qui va le dire. Il est déjà venu. Pourtant, quand on voit le monde actuel, on veut se dire, attends, c'est ça le royaume de Dieu. Quand on voit le monde actuel, le royaume de Dieu, on voit pas trop où il est. Il est déjà venu, mais il est pas encore pleinement établi. C'est pareil pour le salut, notre salut est déjà acquis, mais pas encore achevé. Par contre, il est acquis. Le salut, le salut, ça se perd pas. C'est pas comme des clés de voiture, on perd pas le salut. Par contre, il n'est pas pleinement achevé. Achevé, c'est différent. Parce que nous restons, on pêche encore, et du coup, on voit que dans ce salut, il n'est pas pleinement achevé. Et comme le fait d'être saint, nous sommes saints, c'est notre identité, mais en cours de sanctification. Mais Dieu ne voit pas le « en cours ». Il nous appelle déjà à la finalité. Nous sommes déjà saints. Malgré le fait que dans nos vies, des fois, de manière humaine, on pourrait se dire « attends, c'est ça, être saint ?» Mais oui, Dieu voit l'identité qu'il nous donne.
Je pense juste à un verset là qui m'est revenu. Je le connaissais en anglais, mais en français. C'est dans les Proverbes 23:7 qui dit « car il est comme les pensées de son âme ». Et je reviens à ce que tu dis là sur croire que nous sommes saints. Ne pas se focaliser sur le côté pécheur. Enfin, finalement, si je crois que j'ai été rendue sainte et que je suis sainte, je suis moins focus sur le péché et donc moins tendance à pécher. Si je crois que je suis sainte, alors je me focalise sur la sainteté. Et donc, je pense qu'il y a des percées spirituelles qui arrivent. Parce que je suis ce que je crois que je pense que je suis. Si je pense que je suis sainte, je marche comme une sainte. Si je pense que je suis...
Ouais, tout à fait.
Stupide, je marche comme une stupide.
C'est exactement ça, l'identité, là, c'est ça. C'est intéressant parce que là, on peut avoir sur plein d'autres sujets. Alors, avant de vous laisser la parole sur d'autres questions, je vais vous laisser cette parole. C'est une parole que j'ai trouvée assez riche. Donc, c'est Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, voilà, c'est un théologien assez récent dans l'histoire. Deuxième guerre mondiale, il était résistant, il a été tué sous les nazis. Il va dire ceci, nous sommes déjà saints par la foi en Jésus-Christ, mais pas encore parfaits dans nos actes. Le péché ne nous définit plus. Il nous défie encore. La sanctification, c'est le voyage entre ce que Dieu déclare et ce qu'il forme en nous. Et du coup, c'est pas oublier tout cela. La sanctification, d'ailleurs, je le rappelle, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et du coup, il s'agit, et Colette l'a rappelé, c'est pas le monde des bisounours, il s'agit de combattre, mais ce combat, c'est pas par nos armes. C'est par les armes que Dieu nous donne, et l'identité, comme rappelle ça, l'identité que Dieu nous donne. Dieu ne nous voit pas selon ce que nous voyons. C'est ça qui est fou, hein. Des fois, nous, on est trop dur envers nous-mêmes. Parce que Dieu sait, il est pédagogue. Il sait comment on fonctionne, et lui, il nous appelle déjà ça. C'est une réalité. C'est pas juste politique de l'autruche, hein. C'est une réalité, et que Dieu veut que nous vivons et que nous continuions à vivre. Oui.
Juste. Dans ce cas, c'est comment vivre. Je résumerai juste par l'adhésion, l'acceptation, la foi, l'abandon à cette réalité de qui nous sommes vraiment. Après, ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps, mais c'est un fait, c'est ainsi, ainsi soit-il. Amen. Il est le Amen, Jésus-Christ. Ouais. Après, il y a tellement de moyens, c'est demeurer dans la communion avec Christ, demeurer en Christ, il sera en...
La première étape, peut-être, pour répondre à cette question, déjà, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde l'est, hein, et peut-être même parmi nous ce matin, il n'y a pas de jugement. Être chrétien, c'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est vivre la nouvelle naissance. C'est le baptême de feu que Dieu demande, et ce baptême-là, il vient pas de nous. Je disais au groupe, nous, ce qu'on peut faire, c'est passer par la case repentance, reconnaître nos fautes. Reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire pour que lui nous remplisse de son esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de changer une vie à ce point. Sinon, en fait, on va avancer de manière théorique ce matin et vous n'arriverez pas de manière pratique. Le plus important, c'est la pratique, là, ce matin. Après, sur le moyen, en fait, il y a tellement de moyens que Dieu nous donne. Maintenant, il y a quand même des éléments... J'ai donné trois outils, hein, trois outils que Dieu nous montre. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'élément essentiel par lequel Dieu nous parle. Il y a après la prière. Et la prière, c'est pas juste réciter de belles prières, hein. C'est exprimer tous nos ressentiments, nos émotions. Je citais jeudi soir les prières d'imprécation de David. C'est une prière d'imprécation, c'est une prière assez dure. David va faire cette prière parce que ses ennemis vont le persécuter. Il va faire cette prière à Dieu en disant « Seigneur, tu prends les enfants de mes ennemis et tu les fracasses contre les murailles de Jérusalem. » Il commence sa prière comme cela. Nous, on se dirait « c'est pas une prière, ça. » C'est sa prière. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Et ce qu'il fait bien, David, et il fait bien, parce qu'en fait, il s'adresse à Dieu, il s'adresse pas à des hommes, il s'adresse à Dieu, il adresse à Dieu sa colère et sa haine. Et ce qui est bien, c'est qu'il conclut après en disant, Seigneur, maintenant c'est toi qui fais, je ne suis qu'un homme quelque part, mais j'ai confiance en toi, c'est toi qui me rendra justice. Et ça, c'est une bonne prière. Et d'ailleurs, David va dire dans ce même psaume, hein, parce que toi, tu sais mon cœur. Tu connais, c'est toi qui sondes les. On a bien ce passage. C'est juste ce passage qu'on prend, on prend pas la suite. Toi, tu connais mon cœur, tu sondes mon cœur. Ça, on est d'accord. Sur celui d'avant, on voit pas avant ce qui met David, parce que c'est trop dur. Et pour nous, c'est la prière. C'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est peut-être celle qu'on aime le moins. Hein. Et moi, je me parle pour moi. Moi, c'est ce que j'aime le moins. C'est l'Église. Alors, c'est pas que je vous aime pas, mes frères et sœurs. L'Église, c'est sympa quand on mange ensemble. Mais dans le fait de se reprendre les uns aux autres, de s'encourager, des fois, c'est pas agréable. Hein. Puis il y a les caractères qui sont différents. On est très différents parmi nous, et des fois, c'est pas très agréable. Mais pourtant, Dieu nous appelle, il nous commande hein, de vivre cela, parce que ça, c'est le faire qui aiguise le faire. Si on n'a pas un vis-à-vis ici-bas sur terre qui peut nous dire, on pourra se réfugier à travers la parole de Dieu et faire déformer la parole pour que ça aille comme nous on veut que ça aille. L'Église permet aussi d'avancer dans le même sens, de pouvoir se reprendre quand on pense pas bien, quand on agit pas bien. C'est moins agréable, mais ça en fait partie. Et surtout, de pouvoir s'encourager, ça en fait partie aussi. Le monde aussi, effectivement. Alors, Dieu peut agir à travers aussi le monde, mais ça reste quand même quelque part un élément accessoire. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, c'est voilà, qui tu fréquentes, c'est la sagesse de ceux qui fréquentent qui. Et d'ailleurs, c'est le rôle de l'Église. Hein. Sinon, l'Église, c'est pas là pour faire joli le dimanche matin. Hein. Un culte, on peut le faire chez nous. Mais c'est vivre quelque chose ensemble. Dans ce ensemble que Dieu nous appelle. Dieu est un Dieu relationnel. Et dans ce relation, c'est travailler dans nos relations. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Parce que j'ai terminé. Oui, Kervin.
L'avènement de Christ, c'est quand on aura le corps glorieux.
Il y a le micro.
Quand tu dis à l'avènement de Christ, c'est lorsqu'on aura le corps glorieux.
Alors, quand je dis faire l'avènement du Christ, c'est si Jésus revient ou si on décède.
D'accord.
Il y a les deux choses. Mais en fait,
c'est pas tant qu'on est vivant, quoi, quand on a ce corps.
C'est avec le corps régénéré, ouais. C'est le corps glorifié, ouais. Alors, je vous annonce, comme ça, vous savez déjà. En fait, je sais pas que ça va être quand, mais en fait, on finira la série de la sanctification par le retour de Jésus. C'est un élément qu'on parle pas assez, parce que ça en fait partie. Notre espérance de la sanctification, si on n'en parle pas, en fait, on va espérer sur rien, puisque c'est jusqu'à la fin qu'on doit travailler. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou Oui, Christophe?
Juste une remarque pour donner un autre aspect de notre identité. Nous avons été rachetés, nous n'appartenons plus à nous-mêmes.
Tout à fait.
Nous sommes achetés, nous appartenons à Dieu. Oui.
Tout à fait vrai tout ça. Donc voilà mes frères et sœurs, vous êtes saints, même si des fois on a envie de dire autre chose quand on se voit. Mais c'est bien de se rappeler comment Dieu nous voit. Dieu nous voit saints, et même si on a envie de sortir autre chose des fois... Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on ne dise, il faut qu'on sache parler entre nous, travailler dans le comportement. Mais rappelons-nous que notre identité est en Christ. Et ça, c'est le plus important. Quelqu'un a une question? Oui, Jérôme, tu avais une question?
Je ne sais pas si je vais dire une bêtise ou quoi, mais de toute façon, dans ce monde présent, qui est de toute façon condamné, nous ne pourrons pas être parfaits. Parce que ce monde est sous la domination du diable, de Satan.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, ce monde n'est pas parfait. Il reste, du coup, oui, alors c'est le diable qui a encore la main mise, mais il y a aussi ici le royaume de Dieu qui est déjà là, hein, qui est déjà là et qui est à venir. Après, on parlera de tout ça peut-être au retour de Jésus, parce qu'en fait, il y a plein d'éléments hein, ici sur la fin des temps, comment Dieu voit ici le monde actuel, qui n'est pas amené à s'améliorer, hein, c'est ce que Dieu va dire, mais qui appartient quand même à Dieu. Bon, ça c'est un autre sujet, on va commencer à ouvrir un autre sujet après. Est-ce que quelqu'un veut nous remettre dans les mains du Seigneur? David, tu veux peut-être nous remettre dans les mains du Seigneur?
Merci mon Dieu Seigneur pour la parole de ce matin Seigneur. Merci mon Dieu de l'entrée dans nos cœurs Seigneur afin que Seigneur elle grandisse Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons Seigneur bien être amenés Seigneur à être meilleurs Seigneur, à devenir Seigneur plus saint Seigneur en toi Seigneur.